Partie 2. Un dilemme éthique. Si l'on veut donner corps à l'idéal démocratique, il est donc nécessaire de partager la rhétorique. Or, dès lors que nous y puisons du pouvoir, nous en retirons également une responsabilité, celle de l'utiliser à bon escient. C'est une chose d'apprendre à convaincre, à peser et à influencer. Mais cela signifie-t-il pour autant être légitime à imposer sa volonté par tous les moyens en chaque instant? Et dans ce cas, où situer la frontière? Comment distinguer entre les rhétoriques acceptables et inacceptables? Toutes ces interrogations rejaillissent de surcroît sur ceux qui enseignent cette discipline. Faut-il transmettre l'ensemble du savoir ou ne laisser circuler que les procédés honorables? Doit-on chercher à la diffuser largement ou tenter d'en priver les individus malveillants? La rhétorique, on le voit, nous entraîne de manière inexorable vers de redoutables dilemmes éthiques. Ils sont susceptibles de recevoir trois solutions. 1. L'éthique fondée sur les moyens de la conviction. Une première réponse, la plus simple, consiste à se situer à l'échelle des procédés rhétoriques. Nous chercherons alors à tracer une ligne entre les techniques qui seraient honorables et celles qui ne le seraient pas. Comme nous le verrons plus loin, cela revient en réalité à opposer la conviction à la manipulation. Lorsque nous cherchons à convaincre, nous mobilisons des outils respectueux des personnes auxquelles nous nous adressons. Celles-ci restent capables de mettre à distance, interroger et éventuellement rejeter les propositions que nous leur soumettons. Lorsque nous cherchons à manipuler, au contraire, nous nous appuyons sur des procédés conçus pour assouplir, égarer, voire duper les facultés critiques des individus qui nous écoutent. Ceux-ci ne sont plus en capacité d'évaluer pleinement et sereinement les propositions dont nous les assaillons. Ils ne peuvent donc plus, ou du moins plus totalement, s'en défendre. Si nous fondons notre éthique sur les moyens de la conviction, nous allons chercher en toutes circonstances à préserver le libre arbitre de nos auditeurs. Nous ne mobiliserons jamais, sous aucun prétexte, des procédés manipulatoires. Aucune fin ne justifiera des moyens déshonorables. Une telle solution pourrait sembler inébranlable. Elle souffre pourtant d'une limite majeure. Il est difficile d'établir une distinction claire entre les procédés qui relèvent de la conviction et ceux qui tombent dans la manipulation. La frontière qui les sépare, nous le verrons, ressemble davantage à une large bande grise qu'à une belle ligne rouge. Comment savoir, dès lors, si les moyens que nous mobilisons sont éthiques? La réponse est sans appel, nous n'en sommes jamais certains. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille se résoudre à abandonner définitivement une éthique de l'orateur fondée sur les moyens. Nous devons simplement avoir conscience de ce qu'elle implique, la nécessité de composer avec les incertitudes qu'elle charrie, mais également avec les interrogations qu'elle soulève. Imaginons que nous soyons porte-parole d'une grande cause humanitaire. Par exemple, la lutte contre la faim dans le monde. De notre capacité à sensibiliser les citoyens, à mobiliser leur intérêt, à les mettre en mouvement, bref, à les convaincre, dépend la vie de femmes et d'hommes confrontés à la famine. Pouvons-nous vraiment, dans ces conditions, nous priver de quelque outil rhétorique que ce soit? Est-il acceptable de nous détourner d'un procédé qui nous semble manipulatoire, alors même qu'il pourrait nous permettre de faire prévaloir notre proposition? Pour le dire plus brutalement encore, la sauvegarde de notre éthique personnelle justifie-t-elle le sacrifice de plusieurs milliers de vies humaines faute d'être parvenu à emporter l'adhésion. En outre, dans les faits, nous possédons rarement le monopole de l'effort rhétorique. Lorsque nous voulons convaincre nos auditeurs, d'autres cherchent en parallèle à les convaincre du contraire. Et il y a fort à craindre que ces contradicteurs ne se priveront pas, eux, d'utiliser toutes les armes à leur disposition. Amputés volontairement d'une partie de nos atouts, comment pourrions-nous avoir le dessus ? Certes, il arrive que David triomphe de Goliath. Parfois, nous l'emporterions, même en renonçant à tout un pan de notre arsenal, même contre un adversaire n'ayant, lui, aucun scrupule. Mais parfois, nous échouerions. Sommes-nous prêts à prendre ce risque ? Derrière ces interrogations, nous commençons à percevoir les limites d'une éthique de l'orateur centrée sur les moyens, ainsi que les contours d'un tout autre positionnement. 2. L'éthique fondée sur la fin de la conviction. Une deuxième réponse au dilemme éthique posé par la rhétorique consiste à cesser de nous interroger sur les procédés que nous mettons en œuvre pour nous focaliser plutôt sur l'objectif que nous poursuivons. Est-il juste et bon ? Positif pour les individus auxquels nous nous adressons, voire conforme à l'intérêt général. Car si tel est le cas, si notre dessein est noble, les moyens de le réaliser ne deviennent-ils pas acceptables ? Cette ligne de raisonnement nous mène droit vers une éthique fondée sur la fin de la conviction. Elle consiste à s'autoriser tous les procédés, même les plus litigieux, pour emporter l'adhésion. À une condition cependant, que nous soyons convaincus qu'en convaincant, nous ferons le bien. La fin justifiera les moyens à condition qu'elle soit louable. Ce positionnement éthique possède de nombreuses vertus. Il nous extirpe de la distinction inconfortable et peut-être même insurmontable entre procédés honorables et manipulatoire. Il nous dépêtre de la raideur inhérente à l'éthique centrée sur les moyens en nous laissant libres de choisir les outils qu'il nous semble légitime d'employer dans une situation donnée. Surtout, il nous donne l'opportunité de nous adapter aux contraintes du monde réel en répliquant trait pour trait à la rhétorique de nos adversaires. Ainsi formulé, l'éthique centrée sur la fin de la conviction semble s'imposer comme notre seule option raisonnable. Hélas, elle ne vient pas sans poser, elle aussi, de grandes difficultés. Cette approche implique en effet de reporter l'intégralité du jugement éthique sur les individus. Ce sont les oratrices et les orateurs seuls qui décident si la fin poursuivie leur semble bonne et donc si elle justifie tous les moyens, fussent-ils manipulatoires. Or, à partir de là, il n'y a plus aucun garde-fou. Les pires atrocités peuvent être commises par des individus convaincus dans leur logique corrompue de faire le bien. Imaginons que nous croyions dur comme fer qu'une partie de la population devrait être exterminée, parce qu'elle menacerait l'harmonie de notre société, l'intégrité de notre culture, voire la pureté de notre sang. Nous pourrions alors étayer notre plaidoirie par tous les procédés rhétoriques disponibles, y compris les plus crapuleux. De notre point de vue, nous ne ferions rien d'autre qu'agir dans l'intérêt général. Si nous nous en remettons à l'idée que tous les moyens sont justifiés dès lors que la fin est considérée comme louable, nous n'avons d'autre choix que d'accepter une telle conséquence. Or, celle-ci n'est pas seulement dommageable d'un point de vue éthique, elle l'est également sur le plan pédagogique. En déléguant à chaque individu la responsabilité de choisir ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas, les professeurs de rhétorique se dédouanent finalement de toute responsabilité dans l'utilisation des outils qu'ils transmettent. Ce n'est plus leur affaire. Une fois qu'ils ont recommandé d'agir conformément au bien, leur mission est accomplie. Ils peuvent enseigner tous les stratagèmes et se rassurer, ce n'est plus de leur faute s'ils sont mal utilisés. Bien sûr, c'est un peu court. Une fois que nous en sommes là, il devient difficile d'ignorer l'hypocrisie d'un tel discours. Nous voyons alors se profiler au loin une autre voie. 3. L'éthique individualiste de la conviction. Il existe une troisième manière de répondre au dilemme éthique posé par l'enseignement de la rhétorique. Elle consiste à rejeter la pertinence de la question purement et simplement. Que les procédés utilisés soient honorables ou déshonorables, que l'objectif poursuivi soit noble ou ignoble, tout cela n'aurait aucun sens. La capacité à convaincre étant accessible à tous les individus, il serait de leur ressort et de leur responsabilité d'apprendre à l'utiliser. Certains en deviennent maîtres et parviennent à imposer leur volonté, y compris les plus égoïstes, tant mieux pour eux. D'autres ne parviennent pas à l'acquérir, échouent à faire passer leurs idées et se font fréquemment manipuler. C'est ainsi. Nous venons de plonger dans les eaux froides de l'éthique individualiste de la conviction. Elle consiste à s'autoriser tous les outils disponibles pour convaincre sans aucune forme de restriction. Les moyens seront toujours justifiés, quelle qu'en soit la fin. Ce positionnement éthique pourrait sembler abrupt. Il nous offre pourtant une assise solide pour nous affranchir des questionnements insolubles concernant le bien fondé des procédés ou des finalités de la rhétorique. Peu nous importerait, au fond, de savoir si tel outil est respectueux ou non du libre arbitre des auditeurs, si telle proposition est conforme ou non à l'intérêt général. Ce sont là des discussions de philosophes. Pour les oratrices et les orateurs, seule subsisterait la loi du plus fort et du mieux armé. Cette perspective remet ainsi l'accent sur l'impérieuse nécessité pour les citoyens d'apprendre la rhétorique. Ils sont d'ores et déjà la proie d'orateurs avides, prêts à tout pour obtenir leur voix, leur argent, leur soutien ou leur attention. Devant cette réalité, que faire ? Espérer des experts de la conviction qu'ils se bornent à ne mobiliser que des techniques bienveillantes ? Leur faire confiance pour ne défendre que des propositions bonnes, justes et altruistes ? Leur demander poliment s'ils veulent bien consentir à n'utiliser leur rhétorique que de manière éthique ? Ou bien s'armer soi-même pour faire face ? Apprendre à répliquer pour ne plus se faire manipuler et imposer ses propres idées. L'éthique individualiste ramène notre attention sur le fait que la rhétorique est, que nous le voulions ou non, un pouvoir. Préoccupons-nous de nos intérêts, car personne ne le fera à notre place. Nos adversaires, eux, ne manqueront pas de jouer leur propre partition. Gloire aux vainqueurs et malheur aux vaincus. Par sa simplicité, son efficacité, sa robustesse, l'éthique individualiste exerce une indéniable séduction intellectuelle. Pour autant, elle pose elle aussi son lot de difficultés. Tout d'abord, elle ignore totalement les réalités sociologiques que nous rappelions plus haut. Nous ne sommes pas égaux dans le maniement du langage et de l'argumentation. Or, se contenter de renvoyer chacun à sa responsabilité individuelle, en faisant fi des inégalités de départ, c'est accepter que celles-ci tendent à se reproduire indéfiniment. C'est aussi ne pas voir que le combat rhétorique est devenu radicalement déséquilibré. Les individus sont exposés à la prédation de professionnels de la communication surentraînés, souvent formés dans les meilleures écoles et les plus grandes universités. Leurs messages sont ciselés par de coûteuses agences de conseil avant d'être diffusés à vaste échelle dans les médias de masse. Face à une telle asymétrie, comment croire que les citoyens puissent être en situation de décider librement ou de convaincre efficacement? Comment se satisfaire de ce grand marché de la conviction si, dès le départ, la concurrence est faussée? Comment se résoudre à clamer « que le meilleur gagne » si l'affrontement est biaisé? Ces considérations nous révèlent le péché originel du positionnement individualiste. Il revient, en définitive, à abdiquer toute possibilité d'une réflexion éthique sur la rhétorique. Dans cette perspective, les oratrices et les orateurs ne peuvent plus être blâmés pour avoir utilisé un procédé manipulatoire, puisque la question des moyens de la conviction ne se pose pas. Ils ne peuvent pas non plus être accusés d'avoir mis leurs compétences au service d'un objectif condamnable, puisque la question des fins de la conviction ne se pose pas non plus. Il y a pourtant bien, dans la réalité, des procédés litigieux et des objectifs pernicieux. Quand bien même nous ne parviendrions pas à nous mettre d'accord pour déterminer lesquels le sont, nous nous retrouverions pour constater qu'ils existent. Adopter une éthique individualiste, c'est renoncer à se poser de telles questions. Dans le confort de cette approche, ce que nous abdiquons, c'est la possibilité même de réfléchir au fondement d'un débat public de qualité. 4. La rhétorique éthique. Alors, que faire? Quelle posture adopter? Au terme de cette réflexion, force est d'admettre que nous ne disposons pas d'une solution tranchée. Et cela est parfaitement normal. La définition d'un dilemme, a fortiori d'un dilemme éthique, c'est précisément de n'admettre aucune bonne réponse. Il nous place devant un choix intimement personnel, où toutes les options se révèlent inconfortables. C'est à chacune et à chacun d'entre nous qu'il revient en conscience d'arrêter sa décision. En définitive, tout se ramène à un seul et unique paramètre. Quelle oratrice ou quel orateur voulons-nous être? Il nous reste toutefois à élucider notre interrogation première. Quelle rhétorique devrait être enseignée dans une société démocratique? Cette question nous invite à retourner la focale de la discussion pour la pointer finalement sur les professeurs. Des trois éthiques de la conviction découlent, pour eux, trois impératifs pédagogiques. Une exigence de clarté d'abord. Les professeurs de rhétorique se doivent d'attirer systématiquement l'attention des élèves sur les outils qui, selon eux, relèvent d'une pratique respectable ou, au contraire, contestable. Ainsi, les oratrices et les orateurs souhaitant fonder leur éthique sur les moyens de la conviction sauront quels sont ceux qu'ils peuvent utiliser sereinement, ceux qu'ils doivent manier prudemment et ceux dont il leur faut se détourner fermement. Une exigence d'exhaustivité, ensuite. Les professeurs de rhétorique se doivent de présenter aux élèves l'intégralité des outils, techniques et procédés dont ils ont eux-mêmes connaissance, sans en omettre aucun. Ainsi, les oratrices et les orateurs désirant fonder leur éthique sur la fin de la conviction, ou choisissant de s'en remettre à l'individualisme, pourront lutter contre leurs adversaires à armes égales. Une exigence d'universalité, enfin. Les professeurs de rhétorique se doivent de diffuser leur enseignement le plus largement possible. Dans l'idéal, c'est tous les individus qu'il faudrait parvenir à former. Ainsi, nous n'aurions plus à nous soucier de l'utilisation de procédés manipulatoires. Les auditeurs seraient pleinement en mesure de les repérer, de les désarmer et d'en blâmer les responsables. Nous n'aurions plus à craindre qu'une rhétorique trop efficace soit mise au service d'un projet égoïste ou néfaste. Les auditeurs seraient pleinement en mesure de le discuter, de l'éprouver et, s'ils l'estiment nécessaire, de s'y opposer. Universellement enseignée, la rhétorique cesserait d'être un pouvoir exercé brutalement par ceux qui se la sont appropriée. elle deviendrait au contraire l'outil permettant l'exercice d'un débat de qualité. La rhétorique partagée n'est pas seulement une rhétorique démocratique, elle est aussi la seule rhétorique éthique. Voilà ce qu'est, au fond, cet ouvrage, une mise en partage de la rhétorique. Bien sûr, il s'agit d'un traité pratique. Les lectrices et les lecteurs pourront en appliquer chaque page dans leur vie quotidienne. Mais sa portée va au-delà. Partager la rhétorique, c'est garantir le caractère éthique d'un pouvoir qui s'exerce sur nous et que nous exerçons sur les autres. C'est également garantir le caractère démocratique d'un pouvoir dont quelques-uns jouissent à ce jour sur toute la société. Où que notre regard se porte, nous contemplons un même horizon. La seule manière de s'assurer que le pouvoir rhétorique soit utilisé équitablement, c'est de veiller à ce qu'il soit partagé par toutes et tous.